vous souhaitons la bienvenue au podcast de la santé. Chaque semaine, nous vous informons sur des sujets en relation avec la pandémie et sur le large-scale testing. Le vaccin contre la COVID-19 reste au centre de l'intérêt. Voilà pourquoi nous avons décidé de lui consacrer un nouvel épisode podcast. Nous parlerons aujourd'hui notamment du plan de la campagne de vaccination au Luxembourg, sujet qui a beaucoup intéressé sur réseaux sociaux, et aussi du Conseil supérieur des maladies infectieuses, institution qui a été étroitement impliquée dans la préparation de ce plan de vaccination. Nous toucherons aussi mot sur le vaccin AstraZeneca, qui fait partie de vos préoccupations actuelles. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité Dr. Françoise Berthet. Pédiatre de formation, Dr. Berthet est directeur adjoint de la santé. Elle est par ailleurs secrétaire du Conseil supérieur des maladies infectieuses. Bonjour Dr. Berthet.
Bonjour.
Alors arrivons peut-être tout de suite à la première question qui va porter sur le Conseil supérieur des maladies infectieuses. Pourriez-vous expliquer le rôle de ce conseil en général ? Qu'est-ce qui fait le Conseil supérieur des maladies infectieuses ?
Oui, absolument. Le Conseil supérieur des maladies infectieuses, c'est un organe consultatif qui existe en réalité de très longue date et qui a pour mission de donner des avis et d'émettre des recommandations concernant la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses. Cette mission du Conseil supérieur des maladies infectieuses, elle a été ancrée dans la loi de 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de santé publique. Et un tel conseil existe dans l'immense majorité des pays industrialisés et le rôle de ces conseils, c'est véritablement d'aviser l'autorité de santé sur la stratégie vaccinale pour ce qui concerne toutes les maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination. Et ces conseils rassemblent les données acquises sur les effets des vaccins et sur leur disponibilité pour émettre des avis et des recommandations pour certaines maladies qui affectent en particulier leur population et qui sont aussi adaptées au système de santé auquel ils s'adressent. Parce que chaque pays, chaque communauté a une circulation de maladies infectieuses qui peut être spécifique, peut avoir aussi une population qui est différente, des tranches d'âge différentes, par exemple, ou certains flux de personnes différents. Et donc, les recommandations vaccinales peuvent varier d'un pays à l'autre. Et c'est là tout le rôle des conseils, comme le Conseil supérieur des maladies infectieuses.
Mmh. Et parlons peut-être aussi un peu de sa composition. Quel genre de personnes y a-t-il dans ce conseil ?
Mmh. D'abord, c'est important de préciser que le Conseil supérieur des maladies infectieuses est un organe indépendant qui est constitué d'experts. Et quand je dis indépendant, ça veut dire que les membres sont indépendants de l'industrie ou des intérêts commerciaux et même des influences politiques. Je pense que c'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, les membres du Conseil supérieur des maladies infectieuses sont soumis à une obligation de déclaration de leur conflit d'intérêts, le cas échéant. Le Conseil supérieur des maladies infectieuses, ici au Luxembourg, il est composé de 14 membres qui représentent la plupart des entités qui sont intéressées et concernées par les maladies infectieuses. C'est-à-dire le Service national des maladies infectieuses, diverses spécialités médicales comme les pédiatres, les médecins généralistes, les gérontogériatres qui s'occupent donc des personnes âgées. Il y a aussi un représentant des dentistes Et puis, il y a des représentants des laboratoires qui sont impliqués dans l'identification de ces maladies infectieuses, comme le Laboratoire national de santé ou des laboratoires extérieurs. Et puis, d'autres membres de ce conseil sont membres de la direction de la santé, comme l'inspection sanitaire ou la direction en ce qui me concerne, ou la médecine scolaire, mais au titre d'expertise en la matière et non pas au titre de représentant du ministère de la Santé.
Et quel est le mode de travail de ce conseil? Sur quoi se basent justement les recommandations qu'il émet?
Les recommandations se basent sur ce qu'on appelle l'évidence, c'est-à-dire les preuves qui ont été acquises dans le domaine scientifique et dans le domaine médical. Le Conseil supérieur des maladies infectieuses compile donc les publications scientifiques et les données épidémiologiques locales, donc quelles sont les maladies qui circulent au Luxembourg, quels sont les types de maladies, les types de variants aussi en ce qui concerne la COVID-19 qui circulent ici dans le pays, et évidemment aussi les données épidémiologiques européennes et globales. Et sur base de ces deux sources d'informations, d'une part les informations issues des études relatives aux vaccins et à leur profil d'efficacité, à leur profil de sécurité et à leurs conditions d'utilisation, et d'autre part sur base de l'épidémiologie des maladies au Luxembourg, le Conseil supérieur alors formule ses avis et ses recommandations en matière de vaccination.
Et ces recommandations sont librement consultables également ?
Absolument. Mm-hmm. Elles sont toujours publiées dès qu'elles sont validées par l'ensemble des membres. Elles sont publiées sur la page du Conseil supérieur des maladies infectieuses dans la rubrique de la maladie correspondante. Donc, il y a une rubrique pour le tétanos, pour la rougeole et bien sûr pour la COVID-19.
Quel a été plus précisément le rôle du CSMI dans le cadre de la pandémie actuelle? Et plus particulièrement, et nous allons en parler plus longuement, dans le cadre de la campagne de vaccination.
Le Conseil supérieur des maladies infectieuses a été impliqué très très tôt dans la pandémie, puisque, comme je l'ai dit au début, ce conseil n'émet pas que des avis et des recommandations en matière vaccinale, mais également en matière de lutte et de prévention contre les maladies infectieuses. Donc, dès le début de la pandémie, il s'est agi d'avoir pour notre pays une définition de qu'est-ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce que c'est la COVID. À l'époque, on l'appelait l'infection à SARS-CoV-2. Et selon quels critères les médecins pourront-ils poser le diagnostic de cette maladie? Donc très tôt, le Conseil supérieur a été impliqué pour, comme je le disais à l'instant, faire la définition de la maladie, pour définir également qui est un contact étroit, qui n'est pas un contact étroit, mais un contact tout de même, pour définir également, sur base des connaissances qui s'accumulaient progressivement, quelle était la durée recommandée pour l'isolement, quelle était la durée et les conditions de la quarantaine pour les personnes contacts, quelles étaient les personnes qui étaient vulnérables à la COVID, quelles étaient également la stratégie de prise en charge de cette maladie pour soigner les patients. Le Conseil supérieur, bien avant qu'il s'agisse d'émettre des recommandations en matière de stratégie vaccinale et d'utilisation des vaccins, a été très lourdement impliqué dans la pandémie et dans l'ensemble des recommandations qui ont fourni la base de l'action médicale et également, bien sûr, de l'action du gouvernement.
Et donc, par rapport au plan de la campagne de vaccination, donc là, vous étiez également, je suppose, très impliqué en tant que...
Oui, absolument. Dès l'été, comme d'autres pays d'ailleurs européens, le Conseil supérieur des maladies infectieuses s'est penché sur les perspectives vaccinales et a publié les premières recommandations générales pour la vaccination contre la COVID-19 le 22 septembre dernier. Nous avons précisé au fur et à mesure de l'évolution des connaissances sur le profil d'efficacité et de sécurité des vaccins qui allaient arriver, nous avons pu mettre à jour et préciser les éléments de la stratégie vaccinale pour le Luxembourg. Et donc, avant même l'arrivée des premiers vaccins, le Conseil supérieur des maladies infectieuses a publié des recommandations pour l'usage de ces vaccins, qu'il s'agisse des vaccins à ARN messager ou du vaccin à vecteur viral plus récemment introduit au Luxembourg.
J'en viens déjà à ma question peut-être la plus lourde du podcast et qui va intéresser le plus. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer en détail le plan de vaccination du Luxembourg ?
Oui, absolument. Mais d'abord, j'aimerais, avant de détailler le plan, j'aimerais rappeler quel est l'objectif poursuivi par la vaccination. Parce que en raison de ces objectifs, un plan a été nécessaire. L'objectif qui est poursuivi par le gouvernement, c'est en priorité de réduire la mortalité et la morbidité, c'est-à-dire les formes sévères et les formes qui ont des séquelles de cette maladie. Et d'autre part, le deuxième objectif du gouvernement est de préserver les capacités de notre système de santé et de soins. Et donc, en fonction de ces grands principes, le Conseil supérieur des maladies infectieuses réfléchi à la manière dont on pouvait prioriser l'utilisation des vaccins qui n'arriveraient que par batch, par quantité limitée et progressif, afin de faire le meilleur usage possible de ces vaccins dans le respect de cet objectif de réduire la mortalité et réduire les formes sévères. Donc ça, c'est l'objectif qui est poursuivi. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire un plan de priorisation. Parce que si il n'y avait pas ces objectifs, on pourrait dire c'est premier arrivé, premier servi. Et si tous les vaccins arrivaient en même temps, on pourrait vacciner tout le monde en même temps. On n'aurait pas besoin non plus de faire une priorisation. Donc, ceci étant dit, la manière dont le Conseil supérieur des maladies infectieuses a travaillé, c'est que d'abord, nous avons considéré quel était le fardeau des décès et des formes sévères selon les diverses catégories d'âge ici au Luxembourg, dans notre système de santé, chez nos personnes vulnérables, enfin vulnérables en raison de l'âge. Et ça a permis de définir que, à partir de l'âge de 75 ans, ici au Luxembourg, les personnes étaient beaucoup plus exposées au risque de mortalité et au risque d'hospitalisation suite à la COVID. Donc ça a été, par exemple, un des critères déterminants qui a permis au Conseil supérieur des maladies infectieuses de trancher quel était l'âge de la vulnérabilité la plus élevée Alors que d'autres pays ont défini d'autres âges limites. Par exemple, le Royaume-Uni a défini l'âge de 80 ans comme étant les « highly vulnerables », comme ils disent. Donc ça a été un des éléments. Et puis l'autre élément de données épidémiologiques que le Conseil supérieur des maladies infectieuses a utilisé, ce sont les données relatives aux formes sévères et à la mortalité pour certaines maladies qui existaient et qui avaient été compilées dans d'autres systèmes de santé. Pourquoi pas au Luxembourg ? Parce qu'au Luxembourg, notre base populationnelle n'est souvent pas suffisamment étendue, large. Nous n'avons pas suffisamment de cas pour pouvoir tirer des statistiques robustes concernant certaines maladies ou certaines sous-catégories de personnes. Et donc, nous nous sommes basés sur les données épidémiologiques qui avaient été publiées dans d'autres pays européens ou industrialisés, comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis, et qui nous ont permis de définir quelles étaient ces personnes hautement vulnérables qui devaient être priorisées en tout premier lieu. Ensuite, en fonction de ces critères de vulnérabilité relatifs aux maladies qui exposaient quand même les patients à un risque très significatif d'évolution sévère et de mortalité, le Conseil supérieur des maladies infectieuses a établi les catégories suivantes qui seront incluses dans les phases 3 et 4 et suivantes de la priorisation vaccinale.
Merci de ces informations précieuses. Pourriez-vous, s'il vous plaît, à présent nous détailler les phases de ce plan de vaccination ?
Oui, bien sûr. Les phases de ce plan d'allocation des vaccins sont au nombre de 6. Alors la première phase, on est en plein dedans pour le moment, elle concerne les personnes les plus vulnérables qui vivent en collectivité, comme les personnes âgées et les personnes hébergées dans des structures de handicap lourd, ainsi que les professionnels de santé et le personnel des structures de prise en charge des résidents âgés et des personnes atteintes d'un handicap lourd. Donc ça, c'est la phase 1. Et puis viennent les phases 2 à 6 qui sont qui ont comme différence en fait le critère de vulnérabilité des personnes concernées vis-à-vis de la COVID. Alors, la phase 2, qui vient tout de suite après la phase 1, concerne les personnes hautement vulnérables. Et cette vulnérabilité particulièrement élevée concerne soit les personnes âgées de plus de 75 ans, et on a expliqué avant pourquoi on a choisi cette limite d'âge de 75 ans, et qui seront vaccinés d'abord en commençant par les personnes les plus âgées, donc les centenaires. Et puis nous avons toujours dans la phase 2 les personnes hautement vulnérables qui le sont en raison d'un état de santé préexistant. Et là, il s'agit de maladies très particulières qui ont un impact important sur la capacité de la personne à se défendre contre les infections. Il s'agit grosso modo des déficits immunitaires lourds, des greffes d'organes, des personnes atteintes d'un cancer sous traitement agressif. Et ça, ce sont toutes ces personnes-là qui font partie de la catégorie de personnes visée par la phase 2. Ensuite vient la phase 3 qui s'adresse à des personnes qui sont significativement vulnérables, c'est-à-dire qu'elles ont un risque significativement plus élevé que la population normale de faire une forme sévère de la maladie ou de mourir de la COVID-19. Et là, à nouveau, comme pour la phase 2, il y a deux types de personnes qui sont, qui font partie de cette catégorie de significativement vulnérables. Soit il s'agit d'un critère d'âge, ce sont les personnes de 70 à 74 ans. Soit il s'agit d'un critère d'une maladie chronique qui est liée à une fragilité, à une vulnérabilité particulière vis-à-vis de la COVID-19. Puis nous avons la phase 4 qui, à nouveau, concerne deux catégories de personnes dont la vulnérabilité est modérée. Et là, j'ai repris mes feuilles pour m'assurer de l'exactitude de mes propos. Il s'agit soit d'un critère d'âge de 65 à 69 ans, soit d'un état de santé préexistant qui expose à un risque modéré, mais pas forcément significatif, d'évolution sévère de la maladie. Enfin, ensuite, nous avons la phase 5 qui s'adresse aux personnes de 55 à 64 ans et aux personnes qui ont éventuellement un risque majoré, comme par exemple un diabète bien équilibré sans complications ou une hypertension artérielle qui est bien contrôlée sous médicaments. Et puis enfin, nous avons la phase 6 qui s'adresse à des catégories spécifiques de la population générale. Je parle ici des personnes qui vivent dans des conditions de précarité ou dans des conditions de promiscuité ou de collectivité qui les exposent à un risque accru d'acquisition de la maladie, mais qui n'ont pas un état de santé préexistant qui les expose à une forme sévère. Et puis, dans la phase 6, nous avons bien sûr aussi toutes les personnes de la population générale qui ne remplissaient pas un critère de vulnérabilité qui aurait pu les rendre éligibles à une vaccination à l'occasion d'une phase antérieure.
Oui, nous vous rappelons aussi à notre public que le détail de ce plan de vaccination est évidemment disponible sur le site COVID-19 où nous avons un onglet spécial vaccination. Maintenant, docteur Berthet, quelle est la démarche que je dois faire en tant que personne vulnérable? Est-ce que je dois faire une démarche ou non? Comment est-ce que ça va se passer en fait?
Non, à ce stade, il n'y a rien à faire. En réalité, nous ne sommes pas encore sortis de la phase 1. La phase 2 va s'adresser à des personnes très âgées qui vont être invitées de manière automatique et qui vont recevoir leur invitation comme elles reçoivent l'invitation dans le cadre du large scale testing. Et pour les personnes qui sont hautement vulnérables en raison d'un état de santé préexistant, donc les personnes qui ont une greffe d'organes, qui ont un déficit immunitaire congénital ou qui sont en traitement pour un cancer, en traitement actif pour un cancer, ces personnes-là feront l'objet en réalité d'un processus d'invitation qui est automatisé sur base de fichiers qui vont être et qui sont en train d'être compilés et qui reprennent ces personnes-là. Donc non, il n'y a pas de démarche active à faire. Nous recevons effectivement des demandes et des courriers, y compris par envoi recommandé, pour émanant de patients qui demandent à être mis sur une liste prioritaire ou à se voir réserver un vaccin. Ce n'est pas comme ça que la stratégie de la vaccination va être déployée. Comme vous le savez, c'est le Conseil supérieur des maladies infectieuses qui a proposé une priorisation vaccinale sur base de critères médicaux et de santé. santé. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement est en charge de déployer la vaccination au bénéfice de la population et le gouvernement met en place tous les outils et les dispositifs qui permettent à ces personnes d'avoir accès à la vaccination. Et donc, la communication sera faite en temps voulu pour que les personnes puissent faire, le cas échéant, les démarches nécessaires pour avoir accès à la vaccination. Donc, le mot d'ordre, c'est qu'aujourd'hui, non, il n'y a pas d'action particulière à faire de la part du citoyen pour avoir la vaccination.
Une question qui vient souvent, notamment sur les réseaux sociaux, qu'en est-il des femmes enceintes ? Peuvent-elles se faire vacciner, oui ou non ?
Alors, la vaccination n'est pas interdite aux femmes enceintes. Elle n'est pas contre-indiquée en cas de grossesse, mais elle n'est pas non plus formellement recommandée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de données de vaccination chez des femmes enceintes, parce que classiquement, les femmes enceintes ne sont pas incluses dans les essais cliniques et que donc il n'y a que quelques cas épars de vaccination de femmes enceintes dans ces essais cliniques qui ont été inclus peut-être par mégarde, je ne sais pas pour quel motif ils ont été inclus, mais en tout cas, les données sont extrêmement parcellaires. Nous n'avons pas de raison de penser que la vaccination contre la Covid, qu'il s'agisse d'un vaccin à ARN messager ou qu'il s'agisse d'un vaccin à vecteur viral, comporte un danger particulier pour la femme enceinte ou pour le fœtus. Cependant, même si nous n'avons pas de raison de penser qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de preuve qu'il n'y a vraiment aucun danger. Et donc, la vaccination pour les femmes enceintes doit être prise en étroite concertation avec son médecin et dans une démarche de balance du risque et du bénéfice que cette femme peut tirer de la vaccination. Il est évident qu'une femme enceinte qui a de l'hypertension, qui a un diabète, qui a éventuellement une autre maladie qui l'expose à un risque important de forme sévère de la COVID-19 aura probablement intérêt à se faire vacciner parce qu'elle va avoir un bénéfice clair de la vaccination, alors qu'une femme enceinte qui ne comporte aucun facteur de risque pourra considérer qu'elle préfère ne pas se faire vacciner et attendre la fin de la grossesse pour se faire vacciner. Il y a peut-être une chose qu'il est intéressant aussi de préciser pour les femmes enceintes, c'est que si jamais la vaccination est administrée à une personne qui ne sait pas encore qu'elle est enceinte et qu'elle découvre qu'elle est enceinte après avoir reçu la première dose de vaccin et qui se demande si une deuxième dose est indiquée. D'abord, première chose, c'est y a-t-il un risque ? Est-ce que ma grossesse est à risque après cette première dose de vaccin ? Là, les recommandations sont très claires. C'est qu'il n'y a aucun motif d'interrompre cette grossesse. De grâce, ne prenez pas des mesures extrêmes alors que, selon toute probabilité, le vaccin ne met pas cette grossesse et ce fœtus en danger. L'autre message, c'est que si la grossesse est constatée entre la première et la deuxième administration de vaccin, les recommandations actuelles, c'est d'attendre la fin de la grossesse avant d'administrer la deuxième dose du vaccin, c'est-à-dire de ne pas donner une dose supplémentaire intentionnellement sans avoir pesé ce bénéfice et ce risque chez une femme qui éventuellement n'aurait pas un très grand bénéfice à tirer de la vaccination dans l'immédiat.
Maintenant, on entend souvent que AstraZeneca serait moins efficace que les vaccins mRNA. Comment se définit l'efficacité d'un vaccin ? Par exemple, AstraZeneca aurait autour de 60%. Qu'est-ce que cela veut dire au juste ?
Oui, l'efficacité d'un vaccin est définie, est calculée dans le cadre des études cliniques. Et comment fait-on ? Ben, on prend un groupe de personnes qui reçoit la vaccination, qu'on compare à un autre groupe de personnes qui ne reçoit pas la vaccination, ou en tout cas pas celle-là. Et puis on suit ces personnes dans le temps pour voir qui va acquérir l'infection. Si dans le groupe des non-vaccinés, il y a plus d'infections qui sont acquises que dans le groupe des vaccinés. C'est en tout cas ce qu'on attend. Alors, lorsqu'on parle d'un taux d'efficacité contre l'infection COVID-19 de 60%, cela veut dire que dans le groupe des personnes qui ont été vaccinées, il y a eu 60% de cas en moins que dans le groupe des non-vaccinés. Donc, s'il y a eu 100 personnes dans le groupe des non-vaccinés qui ont acquis l'infection au cours de l'étude, une réduction de 60% correspond alors à 40% ont quand même acquis l'infection alors qu'elles avaient été vaccinées. Voilà ce que ça veut dire une efficacité à 60%. Alors, il faut bien aussi faire la différence entre ce qu'on considère efficacité contre l'infection. Et là, effectivement, l'efficacité du vaccin AstraZeneca est aux alentours de 60 à 66% selon des données plus récentes. Plus on a de données, mieux on saura quelle est l'efficacité véritable de ce vaccin contre l'infection symptomatique. Mais évidemment, ce qui nous importe le plus, c'est de protéger la population contre les formes sévères et contre le décès. Et là, le taux d'efficacité qui a été relevé pour le vaccin AstraZeneca est tout à fait comparable à l'efficacité des deux vaccins à ARN messager, puisque parmi les plus de 8000 personnes qui ont pu être suivies à partir de 21 jours après la première dose de vaccin, après une seule dose de vaccin AstraZeneca, il n'y a eu aucune forme sévère de la maladie et aucun décès qui n'ont été notés, alors que dans les 8000 et quelques personnes qui faisaient partie du groupe contrôle et qui ont été observées durant le même laps de temps, 14 formes sévères ont été observées. Donc on voit qu'il y a là ce qu'on pourrait dire une efficacité optimale du vaccin AstraZeneca contre les formes sévères et contre le décès sur base des données dont on dispose aujourd'hui.
Merci beaucoup, docteur Berthet, pour ces éclaircissements et merci à ceux qui nous écoutent chaque semaine pour leur intérêt. Restez en bonne santé, pensez toujours aux gestes barrières, s'il vous plaît, et faites-vous tester si vous êtes invité au Large Scale Testing.